Bonjour. Aujourd'hui, on explore un texte assez unique, un manuscrit...
Manuel de désintoxication intellectuelle pour post-colonisé lucide.
Oui, coécrit par Zeynab Benchakroun et son cousin Adnan Benchakroun.
Et notre but, c'est vraiment de décortiquer les idées fortes de ce dialogue.
Dialogue, c'est le mot juste ?
Absolument. La forme est très particulière. Ce n'est pas un essai classique, hein. C'est un vrai débat. 10 questions-réponses, ça s'affronte pas mal.
Et Adnan joue souvent l'avocat du diable, c'est ça qui est intéressant.
Exactement. Les auteurs le disent eux-mêmes, avec une certaine autodérision. Ils parlent d'une masturbation mentale entre cousins.
Le fond, c'est la décolonisation des esprits. C'est assez direct comme approche.
C'est audacieux, oui. Et ce format rend l'analyse très vivante. Donc notre objectif ici, c'est de bien saisir les arguments principaux sur cet héritage colonial, celui qui persiste dans les mentalités, dans les systèmes.
Et comment on peut s'en émanciper intellectuellement parlant ?
Voilà, comprendre cette discussion stimulante. Alors, on commence par un gros morceau, globalisation et savoirs locaux. Quelle est la perspective de Zeynab là-dessus ?
Pour elle, la globalisation actuelle, c'est une forme de domination. Elle utilise le terme « corporatocratie ».
Corporatocratie, d'accord.
L'idée, c'est que ça standardise tout et que ça érode les savoirs locaux, les savoir-faire traditionnels.
Et ça créerait une dépendance.
Oui, une dépendance nord-sud, via un transfert de savoir qu'elle juge un peu illusoire. Pour elle, il faut absolument reconnaître cette dépendance pour pouvoir ensuite revaloriser le local.
Les savoirs locaux en agriculture, en médecine, ce genre de choses.
Exactement. Ces savoir-faire spécifiques.
Et Adnan face à ça?
Il nuance, j'imagine?
Ah oui, Adnan apporte un contrepoint. Il ne dit pas qu'il n'a pas de problème, mais il rejette l'idée d'une domination totale.
D'accord.
Il rappelle que la globalisation, ça permet aussi des échanges, une adaptation. Il prend l'exemple des BRICS, par exemple. Mmh. Et il souligne qu'il y a eu des aspects positifs, comme une certaine réduction de la pauvreté. Pour lui, les savoirs locaux, ils sont plus résilients qu'on ne le pense.
Donc, pas un rejet total.
Non, il propose plutôt une voie médiane, une sorte d'hybridation pragmatique. Pas de rejet systématique, mais une composition intelligente.
Intéressant cette tension, on la retrouve sur l'éducation. Zeynab, elle veut quoi pour l'école ?
Alors là, pour Zeynab, c'est clair. Il faut un changement majeur.
Radical même.
Radical, c'est-à-dire ?
Sa conviction, c'est qu'il faut ancrer les jeunes dans leur propre culture, leur histoire, y compris les chapitres difficiles, hein. L'idée, c'est de leur donner des racines solides pour qu'ils puissent mieux affronter les défis mondiaux.
Et ça passe par déconstruire quelque chose.
Oui, elle parle de démanteler la colonisation intériorisée, c'est-à-dire cette adoption, souvent inconsciente, des schémas de pensée hérités de l'époque coloniale.
Et Adnan, il modère ça ?
Oui, Adnan met en garde. Il craint qu'un changement trop brutal, trop radical, risque en fait de marginaliser les jeunes sur la scène internationale.
Ah, le risque de l'isolement ?
Exactement. Donc il plaide pour un équilibre, un modèle éducatif, disons, hybride, qui valorise le local, bien sûr, mais qui donne aussi les compétences globales.
Les compétences nécessaires pour être compétitif, trouver un travail dans le monde actuel. C'est ça, pour répondre à leurs aspirations professionnelles aussi, dans un monde qui est interconnecté, toujours cette recherche d'une voie médiane, tu vois.
Je vois. Alors, abordons un autre sujet, crucial, l'environnement. Quel est le lien avec la décolonisation selon Zeynab ?
Pour Zeynab, l'analyse est profonde. La crise climatique, qu'elle appelle polycrise.
Polycrise.
Oui, pour souligner que c'est un enchevêtrement de plusieurs crises globales, pas juste le climat. Pour elle, cette polycrise a des racines coloniales et systémiques.
Liées au modèle économique ?
Exactement, au modèle de croissance basé sur l'extraction. Elle s'appuie d'ailleurs sur le GIEC, qui fait explicitement le lien entre colonialisme et vulnérabilité climatique accrue dans certaines régions.
Et elle critique le capitalisme vert ?
Très vivement. Elle y voit une illusion, cette idée d'une croissance verte découplée des limites de la planète. Son appel, c'est pour une approche qu'elle nomme écocentrique et décoloniale.
Remettre l'écologie au centre.
Voilà. Et questionner les bases mêmes du système actuel.
Et Adnan, face à ce constat, j'imagine qu'il soulève les difficultés pratiques.
C'est exactement ça. Adnan pointe les obstacles concrets. Passer à un modèle écocentrique, ça pose des défis immenses, politiques, économiques.
Surtout pour les pays en développement, j'imagine.
Bah oui, où la priorité reste souvent la croissance économique, la sortie de la pauvreté. Il note aussi que le scepticisme climatique ou l'inertie, c'est complexe. Ce n'est pas juste le lobbying industriel.
Il y a d'autres facteurs.
Bien sûr. Il suffit de voir les difficultés des négociations internationales, les COP par exemple, les intérêts nationaux divergents. Donc, il insiste sur le besoin urgent de solutions pragmatiques, là, maintenant.
Tout en reconnaissant qu'il faut changer les mentalités.
Oui, il ne nie pas ça, mais il souligne la difficulté énorme de bousculer les intérêts économiques qui font très puissants et bien établis.
C'est un débat vraiment intense. Et il faut rappeler le ton du livre, quand même.
Ah oui, important. C'est une réflexion très sérieuse, mais il y a cette touche d'autodérision. Leur clin d'œil à la fin. Et si on s'était pris un peu trop au sérieux?
Exactement. Ça détend un peu l'atmosphère, tout en invitant à poursuivre la réflexion. Si on devait synthétiser, quelle est la tension centrale qui ressort de tout ça?
Je dirais que c'est vraiment cette opposition, ou plutôt cette tension, entre d'un côté un appel fort, presque radical, à une décolonisation profonde de nos façons de penser, pour vraiment briser les vieux schémas de domination.
Et de l'autre?
Et de l'autre, une approche plus pragmatique, plus terre-à-terre, qui mise sur l'adaptation, la négociation, l'hybridation, dans ce monde qui est, qu'on le veuille ou non, hyper complexe et interdépendant.
C'est un vrai dilemme. Pour finir, peut-être une piste de réflexion pour nos auditeurs, inspirée par la fin du livre.
Oui, il y a cette idée, empruntée à Adrienne Marie Brown, que la décolonisation, ça commence peut-être d'abord dans notre imagination.
Dans notre capacité à imaginer autre chose.
Exactement. Et face à toute cette complexité, cette incertitude du présent, que des penseurs comme Bayo Akomolafe décrivent si bien, la question devient quelle place on est prêt à laisser, chacun et collectivement, à cette remise en question radicale de nos propres certitudes, pour pouvoir peut-être envisager des futurs vraiment différents, pluriels.
Une question essentielle. Ça laisse matière à réfléchir.